Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast d'Alain Overy France. Nous recevons aujourd'hui Pascal Molinelli, expert dans le domaine de la gestion d'actifs, qui va nous parler du sujet du règlement ELTIF 2, de ses enjeux et des prochaines étapes. Bonjour Pascal, peut-être pouvez-vous d'abord vous présenter ?
Avec plaisir, bonjour. Je suis donc Pascal Molinelli, collaborateur senior au sein du département Asset Management d'Alain Overy à Paris, département qui compte parmi ses rangs trois associés, Brice Henry, Mia Dassas et Antoine Sarraillé, et pas moins d'une dizaine de collaborateurs. Nous avons une équipe qui a vocation à intervenir sur une palette assez large de sujets qui va de la création de sociétés de gestion à la structuration de fonds d'investissement, fonds immobiliers, fonds de dette, fonds de private equity, sans oublier tout ce qui a trait aux problématiques de commercialisation de ces véhicules en France ou à l'étranger. Et précisément dans cette sphère de l'asset management, il y a un sujet qui anime énormément les débats depuis plusieurs semaines et qui suscite d'ailleurs beaucoup d'attentes dans notre communauté de l'asset management, c'est ce fameux règlement ELTIF 2.0.
Pourriez-vous préciser, en deux mots et pour les plus novices entre nous, ce que sont justement les règlements ELTIF et ELTIF 2?
Bien sûr, vous avez raison, commençons par le commencement. À la base, ELTIF est un règlement européen, relativement récent d'ailleurs, puisque sa première mouture date de 2015, règlement donc qui prévoit la création d'un label européen applicable à des fonds d'investissement alternatifs dont la stratégie consiste à permettre un financement à long terme de l'économie européenne. Alors, je suis bien conscient que ça peut paraître un peu abstrait, donc pour être un peu plus pragmatique, les fonds susceptibles de se prévaloir de ce label sont typiquement et très schématiquement des fonds généralement de type fermé qui ont majoritairement vocation à financer des projets d'infrastructure, des entreprises non cotées, des PME cotées dans une certaine mesure, qu'il s'agisse là d'ailleurs d'investissements sous forme de capital ou de dette. Et je vise ici les instruments de dette, mais également les prêts. D'où cet acronyme donc de ELTIF pour faire référence à cette notion de European Long Term Investment Fund. Maintenant, si l'on se départit un petit peu de cette description assez politique de l'ELTIF et que l'on se concentre sur des aspects plus juridiques, ce label ELTIF présentait initialement deux intérêts majeurs. Le premier était lié à la possibilité de commercialiser un ELTIF au grand public au sein de l'Union européenne, ce qui était plutôt porteur de belles promesses, dans la mesure où le mécanisme dit de passeport européen applicable au FIA ne permet en principe une commercialisation qu'à l'égard de clients professionnels. Le second intérêt était lié à la faculté pour les ELTIF de mettre en œuvre des stratégies d'octroi de prêts, ce qui a d'ailleurs permis d'ouvrir la porte à la création de véritables fonds de prêts pan-européens. D'ailleurs, je me souviens, pour la petite anecdote, qu'à l'époque où l'on avait créé l'un des premiers ELTIF du marché avec Brice Henry, on avait eu un certain nombre de débats et de discussions sur l'adaptation des textes français relatifs au monopole bancaire pour justement permettre une dérogation applicable aux ELTIF. Bon, tout ça maintenant relève de l'histoire du droit et je vous rassure, les ELTIF sont aujourd'hui bien évidemment autorisés à prêter en France. Malheureusement, ce règlement ELTIF n'a pas vraiment eu le succès escompté. On compte moins d'une centaine d'ELTIF créés en l'espace de quelques années et des montants d'actifs sous gestion qui sont restés à des niveaux relativement faibles. Et c'est là un destin finalement assez cruel pour une réglementation qui, sur le papier en tout cas, présentait un certain nombre d'atouts. Assez basiquement, je pense qu'on peut attribuer ce manque d'appétit pour les ELTIF à deux principaux facteurs, les contraintes de commercialisation des ELTIF au grand public d'une part, et les contraintes relatives aux stratégies d'investissement qui peuvent être déployées par ces ELTIF d'autre part. C'est donc dans ce contexte un peu apathique, si je puis dire, qu'intervient le règlement ELTIF 2.0 avec pour ambition de corriger ces quelques erreurs de jeunesse et avec une réelle volonté de redynamiser le cadre réglementaire relatif aux ELTIF.
Si vous deviez nous citer trois des principales innovations d'ELTIF 2, quelles seraient-elles ?
Le premier changement essentiel que je noterai, c'est cette accentuation de la distinction entre ce que l'on peut communément appeler les ELTIF grand public et les ELTIF réservés à une clientèle professionnelle. C'est une dichotomie qui va désormais devenir assez fondamentale dans l'univers des ELTIF, avec d'un côté des ELTIF professionnels qui seront soumis à des contraintes très allégées, avec de nombreuses contraintes de diversification et de concentration qui disparaissent, ce qui, soit dit en passant, est une évolution intéressante qui pourrait booster le déploiement de fonds de prêts pan-européens réservés à une clientèle institutionnelle. Et de l'autre côté, ce que l'on pourra maintenant appeler les ELTIF dits grand public, qui voient d'ailleurs eux aussi leurs contraintes d'investissement rendues plus flexibles, mais qui voient surtout leurs modalités d'accès facilitées. Ce qui m'amène d'ailleurs à la seconde innovation majeure d'Eltif 2 que j'aimerais citer, qui est la simplification des règles de souscription aux Eltif par le grand public. On a en effet dans le règlement Eltif 2.0 quelques mesures phares qui vont considérablement faciliter l'ouverture des Eltif à une clientèle retail. On peut par exemple citer la suppression du montant minimum d'investissement de 10 000 euros, la suppression de la limite d'exposition pour certains investisseurs retail, une simplification des modalités d'entrée en relation avec le client en termes de tests d'adéquation, ou encore cette possibilité désormais consacrée d'appliquer des traitements distincts ou préférentiels pour des investisseurs qui souscriraient à des classes d'actions différentes au sein d'un même Eltif. Et donc si l'on agrège toutes ces mesures, on obtient au final un cadre qui s'avère beaucoup plus propice à une commercialisation d'Eltif au grand public au sein de l'Union européenne. Et c'est là l'un des principaux atouts de charme de la réglementation Eltif qui reprend en quelque sorte ses lettres de noblesse. Enfin, pour la troisième innovation majeure de ce règlement revisité, je vous dirais l'assouplissement général des contraintes d'investissement applicables aux Eltif. Un Eltif pourra désormais mettre en œuvre des stratégies de fonds de fonds. Il pourra être structuré sous forme de fonds maîtres, fonds nourriciers. Il pourra investir dans des fintech, dans des green bonds, etc. On a donc là un vrai élargissement du périmètre des actifs éligibles aux Eltif.
Merci Pascal, c'est très clair. On a senti une certaine émulation autour d'Eltif 2.0. Qu'est-ce qui, selon vous, anime tant les débats en France autour de ce sujet ?
Sur un plan économique, je vous dirais que tout le monde, en France comme ailleurs, est conscient des opportunités qui peuvent résulter de ce nouveau règlement Eltif. Nous sommes là face à un label qui peut contribuer à une véritable ouverture des FIA au grand public à une échelle européenne, là où la plupart des règlements prédécesseurs d'Eltif ont pu échouer. C'est donc ce potentiel qui génère une certaine effervescence autour du sujet. Les gestionnaires ne veulent évidemment pas passer à côté de ces enjeux, tandis que les régulateurs rivalisent eux aussi de leur côté de professionnalisme et de volontarisme pour faire de leurs juridictions respectives des places fortes de localisation de ces nouveaux fonds Eltif. Sur un plan plus juridique et technique, les débats se concentrent essentiellement sur l'adaptation du cadre juridique français afin de permettre un véritable développement de ces Eltif 2.0 avec principalement deux points clés, si l'on met bien entendu les aspects liés à la fiscalité de côté. Il y a d'abord des discussions qui sont relatives au type de véhicule adéquat pour déployer ce label Eltif 2.0. Il ne faut pas oublier en effet que l'Eltif n'est pas en soi une typologie de réglementaire de FIA. Il s'agit d'une dénomination, d'un label qui vient se superposer à un type de fonds, à une enveloppe réglementaire existante. Et sur ce point, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà en France des catégories de fonds qui sont en réalité déjà très bien adaptées à une labellisation Eltif, avec par exemple les fonds professionnels spécialisés ou encore les organismes de financement spécialisés. Ces enveloppes réglementaires-là resteront demain sous Eltif 2 et sous réserve de quelques adaptations plutôt marginales, des formats très bien adaptés pour le lancement de nouveaux Eltif. La question est en revanche plus complexe s'agissant des FIA ouverts au grand public, bien connus comme les FCPR, les OPCI, les SCPI, etc. Ces FIA disposent de nombreuses règles domestiques, si je puis dire, en termes d'actifs éligibles, de ratios de diversification et autres. Et toute la question est de savoir comment combiner ces règles domestiques avec les règles parfois plus souples prévues par le règlement Eltif, sans pour autant dénaturer ces FIA. Et là, pour le coup, le sujet fait couler beaucoup d'encre. Le second sujet de discussion un peu brûlant concerne les modalités de commercialisation des Eltif 2.0, et plus particulièrement l'enjeu crucial de la commercialisation des Eltif en qualité d'unité de compte, donc d'UC, dans le cadre de contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, les véhicules les plus appropriés pour être labellisés Eltif, tels que les FPS, sont éligibles en unité de compte dans des conditions qui sont très restrictives, sous réserve de respecter des ratios qui sont normalement applicables à des fonds de private equity, etc. En ce qui concerne les OFS, eux ne sont pas même pour le moment éligibles en UC. Donc il y a ces débats et ces travaux qui sont effectués pour lever ces différents obstacles et faire en sorte que des fonds de type fonds professionnels spécialisés ou organismes de financement spécialisés, qui seraient labellisés Eltif grand public, puissent maintenant être pleinement éligibles en qualité d'UC.
Et quelles sont les prochaines étapes clés pour le lancement des Eltif 2.0 ?
Sans trop de suspense, je vais vous dire début 2024, puisqu'il s'agira de la date d'entrée en application du règlement modifié. D'ici là, l'ESMA, donc l'autorité européenne, doit en principe publier des RTS, en quelque sorte des mesures d'application, qui auront notamment vocation à préciser les conditions dans lesquelles des LTIF Evergreen pourront être envisagés. Grosso modo, il s'agit pour l'ESMA de préciser les outils de gestion de la liquidité que devront utiliser les gestionnaires s'ils souhaitent constituer des LTIF pouvant faire l'objet de souscriptions et de rachats au fil de l'eau. Le calendrier de publication de ces RTS n'est pas encore connu avec précision, mais une consultation pourrait être lancée sur ce sujet d'ici à cet été. D'un point de vue plus national, la principale prochaine étape concerne l'adaptation du cadre légal et réglementaire français. Donc les adaptations que j'ai pu évoquer précédemment, c'est-à-dire principalement les modifications du code monétaire et financier et du code des assurances, étant précisé qu'une partie de ces modifications pourrait intervenir dans le cadre du projet de loi dit « Industrie verte » qui est porté par le gouvernement, tandis qu'une autre partie devrait plutôt être traitée par le biais d'ordonnances, puisque le gouvernement devrait être autorisé à légiférer de la sorte. On peut sur ce point saluer les vrais efforts effectués par l'ensemble des acteurs impliqués, et notamment d'ailleurs l'AMF et le Trésor, pour que ces changements puissent être effectifs d'ici à la date d'entrée en application d'LTIF 2. Et enfin, peut-être un dernier mot côté autorité de contrôle pour préciser que l'autorité des marchés financiers accepte d'ores et déjà que des gestionnaires puissent se rapprocher d'elle pour démarrer leurs travaux d'obtention d'un label LTIF 2.0 pour leurs fonds, l'idée étant de permettre à ces gestionnaires un lancement effectif de leurs fonds dès la date d'entrée en application d'LTIF 2 début 2024. Ce qui me permet donc de conclure ce podcast en vous disant que aujourd'hui déjà, LTIF 2 n'est plus un simple projet d'avenir un peu évasif, mais bien au contraire, déjà une réalité à part entière, nous permettant d'ailleurs de déjà commencer à travailler sur de vrais projets de fonds LTIF 2.0. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.
Merci beaucoup Pascal pour tous ces éclairages et merci à tous pour votre écoute sur ce sujet d'actualité. À bientôt pour un prochain épisode.